Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman. Et ce matin, nous allons parler d'un roman, justement, de Günther Anders, La catacombe de Maulussy, qui vient d'être publié aux éditions L'Échappée. Donc, Günther Anders, La catacombe de Maulussy, qui vient de paraître aux éditions L'Échappée. Et pour ce faire, je suis avec des traducteurs, Perrine Willem et Christophe David. Bonjour.
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 Alors, de quoi s'agit-il avec ce roman ?
Alors, je voulais dire d'abord qu'en fait, on est deux des trois traducteurs. Il y a une troisième personne, une traductrice qui s'appelle Annika Ellenberger, qu'on salue chaleureusement. On t'adore, Annika. Et donc voilà. Donc nous, on est traducteurs. On a déjà traduit d'autres choses d'Anders. On a des choses en prévision aussi. Et puis, et sinon, on est prof de philo aussi. Donc voilà. Alors, attends. Donc, qui est Günther Anders ? Alors, ben. Vas-y, explique.
Alors déjà, on peut rappeler que Günther Anders s'appelait à l'origine Günther Stern et que c'est en publiant dans le Börsen Courier, qui est un journal berlinois, que le rédacteur en chef du Börsen Courier ainsi que Brecht, qui travaillait à ce journal aussi, ont demandé à Anders, parce qu'il écrivait beaucoup trop d'articles dans ce journal, ont demandé à Anders de trouver un pseudonyme un peu différent pour éviter d'avoir toujours le même nom à la fin des articles. Et Anders leur a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je trouve comme pseudonyme ?» Et donc Brecht et le rédacteur en chef lui ont répondu « Ben, je sais pas, trouve autre chose, appelle-toi autrement. » Et de là est né le nom Anders, il s'appelle Günther autrement. Voilà, donc ça dit beaucoup de choses sur le personnage et sur le fait qu'en fait il a créé un personnage philosophique qu'il n'a cessé de recréer au fil de ses publications et notamment au fil de ses journaux qu'il a publiés, de ses divers entretiens et même de ses entretiens imaginaires. Voilà, donc un philosophe qui philosophe autrement et qui se présente d'emblée comme un outsider de la philosophie.
On peut peut-être dire qu'il couvre au niveau biographique tout le XXe siècle, qu'il est né en 1902 et qu'il meurt en 1992, ce qui est quand même très significatif aussi, donc, puisqu'il va être adulte pendant les années 30 et qu'il va aussi couvrir la deuxième moitié du XXe siècle et que c'est une de ses caractéristiques sur les choses qu'il analyse, c'est ces deux versants.
C'est-à-dire qu'il a un début de carrière un peu académique où il est étudiant de Husserl, puis étudiant de Heidegger, et puis il s'intéresse ensuite à l'anthropologie philosophique que représentent des gens comme Max Scheler ou Helmut Plessner. Et donc l'anthropologie philosophique, c'est une théorie qui prétend parler de la position de l'homme dans le monde par rapport aux autres vivants. Et en fait, il y a ce début de carrière académique, puis il y a le fait effectivement que, vu sa longévité, Anders, quand il était enfant, il s'est retrouvé embarqué comme plus ou moins comme scout dans la Première Guerre mondiale donc il a ensuite vécu tout ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 20, années 30 et il a vu donc la montée du nazisme, il a vu la Seconde Guerre mondiale et depuis les États-Unis il a effectivement assisté au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, puis après il a observé les États-Unis tels que les États-Unis ont évolué après-guerre, et puis il est revenu en Europe et il n'a jamais cessé de s'intéresser à ce qui se passait. Il s'est intéressé à la conquête spatiale, il s'est intéressé à la guerre du Vietnam, il s'est intéressé à plein de choses, et à la fin de sa vie, en 86, donc c'était disons 6 ans avant sa mort, il s'est encore mobilisé après Tchernobyl en proposant des thèses finalement assez étonnantes pour un monsieur de cet âge-là, qui sont des thèses hyper radicales où il se demande comment on doit réagir face au nucléaire, parce qu'il a toujours milité contre le nucléaire, mais de façon plutôt pacifiste, en disant qu'il fallait faire grève par rapport à certaines choses et ne pas accepter de faire certaines choses. Et là, en 86, tout d'un coup, il se dit, mais et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne doit pas passer à autre chose? Est-ce qu'on ne doit pas passer à une action violente? Alors voilà, donc voilà, c'est quelqu'un donc, qui, effectivement, comme vous disiez, avec sa longévité, a traversé le siècle et a pris des tas de positions hyper intéressantes, parce que son début de carrière académique, c'est devenu de la philosophie de terrain après, quoi.
Et peut-être qu'il faut rappeler également que c'est un juif allemand qui émigre dès 1933 en France. Donc juste avant que sa femme, à l'époque Hannah Arendt, émigre elle aussi en France. Donc peut-être rappeler un peu les rapports d'Arendt et d'Anders, ça paraît important. Donc Günther Anders, c'est le premier mari d'Hannah Arendt. Et ils ont été occupés tous les deux à faire une activité philosophique de concert qu'ils appelaient Sunphilosophein, philosopher ensemble. C'est-à-dire qu'il faut pour eux travailler les concepts en dialogue. Et c'est vrai qu'il y a dans l'œuvre d'Anders et d'Arendt des thèmes conceptuels communs, comme un jeu de dialogue philosophique ou de correspondance philosophique. Par exemple, ou pour moi le meilleur exemple, c'est que alors que Arendt fait un rapport sur la banalité du mal pendant le procès Eichmann, dans son ouvrage Eichmann à Jérusalem, Anders, lui, va un peu plus tard écrire une lettre ouverte au neveu d'Eichmann, dans laquelle il interroge la possibilité de la responsabilité à l'heure du travail spécialisé et de la consommation de masse.
On pourrait peut-être dire que les gens qui connaissent un peu Anders le connaissent sur le concept d'obsolescence programmée. Et sur son travail avec le météorologue qui était dans les gens qui étaient dans l'avion, des gens qui ont bombardé Hiroshima. C'est les deux aspects que les gens qui le connaissent un peu connaissent.
Ben, l'obsolescence, c'est compliqué parce que l'obsolescence programmée, c'est un concept très moderne. L'ancêtre de l'obsolescence programmée, c'est Bernard London, c'est l'obsolescence planifiée, c'est la crise de 1929, les États-Unis, tout ça. Genre, si on veut contrer la crise, il faut que tout le monde consomme, quoi. Et donc, il faut consommer vite, se débarrasser vite des choses et racheter des marchandises. Donc, d'où l'obsolescence planifiée à l'époque. Mais c'est pas de ça que parle Anders. Lui, ce qu'il entend par obsolescence, c'est autre chose. C'est une thèse sur notre époque, sur le fait que ce qui est dominant à notre époque, c'est le point de vue des machines. Et que du coup, à partir du moment où on adopte le point de vue des machines, on se dit qu'à côté des machines, les hommes sont des pauvres choses obsolètes. Et du coup, voilà, c'est ça la thématique de l'obsolescence chez Anders. C'est une obsolescence de l'homme et pas une obsolescence programmée des ordinateurs, des choses comme ça. C'est vraiment une obsolescence de l'homme lui-même et une obsolescence de toute une conception du monde. Et donc, de toute une conception qui serait une conception reposant sur le progrès et ce genre de choses, quoi.
Oui. Alors, en fait, la question de l'obsolescence de l'homme, enfin, cette grande thèse de l'obsolescence de l'homme, elle a été établie ou travaillée par Anders après l'après-guerre, après Hiroshima et Nagasaki. Donc, en fait, il y a un vrai tournant de la pensée philosophique d'Anders dans les années 50, c'est-à-dire qu'avant les années 50, dans les années 20, les années 30, Anders avait une pensée philosophique systématique de l'ordre de l'anthropologie philosophique, ce qu'on a rappelé tout à l'heure. Et à partir des années 50, Anders opère un tournant vers la pratique, vers une philosophie qui est d'emblée engagée dans des luttes antinucléaires, sur des terrains de philosophie pratique. Et en fait, la catacombe de Molussi, on peut dire que c'est son premier roman qui s'ancre dans la pratique et qui s'engage. Et on peut trouver dans la catacombe de Molussi certains passages qui annoncent les thèses de l'obsolescence de l'homme et qui annoncent toute la critique du progrès et la critique, l'idée selon laquelle nous sommes devenus plus petits que nos propres produits, plus petits que les machines que nous produisons. Donc on peut par exemple vous lire un extrait qui montre bien les liens entre la catacombe de Molussi et l'œuvre un peu plus tardive d'Anders, donc l'obsolescence de l'homme. Donc c'est dans les apocryphes molussiens, la dernière partie de la catacombe de Molussi, et c'est une fable qui s'intitule « Qui ou qu'est-ce qui progresse ?»« Pourquoi ?» demanda le petit Golo à son maître Mai. « Pourquoi parles-tu toujours avec un tel mépris de la grandeur que l'homme a indubitablement atteinte ? C'est pourtant tout simplement incroyable de voir la façon dont nous nous sommes développés au cours des derniers siècles. » « Nous ne nous distinguons pas autant que tu le penses de nos ancêtres, loin de là, » répondit Mai. « Nous faisons exactement la même chose qu'eux, à savoir du nouveau. Notre progrès, c'est le progrès de nos inventions. Elles se sont empilées les unes sur les autres, mais nous, sommes-nous à la hauteur de nos inventions et de nos produits ? Personne ne se distingue autant de son père qu'une machine d'aujourd'hui se distingue d'une machine d'hier. Que cette maxime fût vraie, Le petit Golo ne pouvait le nier. Mais il était tout de même étonné. L'homme serait donc moins que ses réalisations ? Peut-être est-ce là sa grandeur, qu'il puisse faire plus qu'il n'est lui-même. Et ça, c'est notre histoire ? Continua d'interroger le petit Golo, incrédule. C'est l'histoire de nos produits ? Mais secoua la tête. Non, dit-il, ça, c'est seulement le progrès. Donc vraiment, c'est là toute la thèse que Anders va développer dans l'obsolescence de l'homme. C'est l'idée que l'histoire devient l'histoire de la technique et que le progrès n'est pas un progrès moral, mais bien le progrès de nos inventions, de nos machines.
Qui se sont autonomisées en quelque sorte.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est comme la...
Et c'est ce qui, dans l'obsolescence de l'homme, il appelle ça le décalage prométhéen. C'est-à-dire que nous, on a une certaine capacité à concevoir les choses, mais en fait, on n'est jamais à la hauteur des produits qui nous dépassent. Quoi.
Voilà, on fait des inventions, mais qui nous dépassent effectivement.
Voilà, c'est ça.
Qui finissent par nous annihiler.
Voilà. Et du coup, sur cette affaire, il est assez proche, par exemple, de thèses de quelqu'un avec qui il a eu des rapports très tendus pendant toute sa vie, qui est Adorno. Parce qu'Adorno, je crois que c'est dans Minima Moralia, il explique, que, ou peut-être dans Dialectique négative, il explique qu'en fait, il n'existe pas un progrès qui irait de l'homme sauvage ou primitif jusqu'à l'homme moderne, mais il existe sans doute un projet qui va de la fronde jusqu'à la bombe atomique.
C'est dans Minima Moralia.
Bah, c'est dans Minima Moralia. Et donc, voilà, il y a cette même, il y a un beau texte d'Anders, parce qu'en fait il a été plus ou moins genre ami ennemi, mais plutôt ennemi avec Adorno pendant une bonne partie de sa vie, et le destin lui a joué un drôle de tour, c'est-à-dire que quand il a atteint un certain âge, on lui a décerné le prix Adorno, et quand on gagne au jackpot le prix Adorno, eh bien on est obligé de faire un discours sur Adorno, et donc il s'est retrouvé en situation de faire un discours sur Adorno, où il a expliqué que justement leurs deux œuvres mises ensemble constituaient une sorte d'encyclopédie de ce qu'était devenu le monde à l'époque de la technique. Et donc là, sur cette question du progrès et sur le pessimisme, il y a une sorte de front commun comme ça entre Anders et Adorno. Et leurs pensées étant toutes les deux relativement puissantes, il y a vraiment de quoi nourrir justement une inflexion relativement puissante sur le concept de progrès aujourd'hui. Quoi.
Peut-être qu'on pourrait expliquer là maintenant ce que c'est le livre dont on parle. Il est assez épais, il a été écrit entre 1932 et 1938. Il y a eu des velléités de le réécrire, de le réactualiser, des velléités qui n'ont pas fonctionné. Peut-être que vous pourriez essayer de donner une image globale au niveau de la fiction, de ce que raconte ce livre, quelle est son atmosphère, les moyens qu'il utilise. Est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors déjà peut-être raconter un peu ce qui se passe dans la catacombe. Donc la catacombe de Molucci, c'est l'histoire de deux opposants politiques, Olo et Yegusa, qui ont été jetés dans la cellule de la ville de Molucci. Donc en Molucci, il y a deux Molucci, il y a Molucci le pays et Molucci la ville. Et donc ces deux opposants politiques qui ont été jetés dans cette cellule parce qu'ils se sont opposés au régime dictatorial d'un certain Bourou qui ressemble assez fort à la figure de Hitler. Et donc ce qui est important de dire, c'est que ces deux personnages, le prisonnier plus jeune qui est Yegusa et le prisonnier plus âgé qui est Olo, se transmettent et se racontent les histoires de la Molucci. C'est-à-dire qu'ils se transmettent le passé politique du pays qui les a enfermés. Et donc ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire de ce pays qu'est la Molucci et toutes les événements politiques qu'a connu la Molucci, elle est transmise par les personnages sans monde, privés de monde et privés de lumière, qui sont enfermés dans cette catacombe. Voilà. On peut peut-être ajouter que, bien sûr, la Molucci, c'est une certaine figure de l'Allemagne. Mmh. Mais tu peux peut-être en parler, Christophe ?
Ben, en fait, ce pays, la Molucci, c'est très curieux parce que tous les gens qui ont lu Anders ont croisé la Molucci un jour ou l'autre. Parce qu'en fait, Anders truffe tous ses livres de petites anecdotes molusciennes, de petits proverbes molusciens, de petites choses comme ça. Et au bout d'un moment, on finit par se demander ce que c'est. On se dit, on aimerait bien en savoir plus. Et en fait, pour en savoir plus, il fallait que ce roman réémerge. Et donc, à la fin de sa vie, donc Anders a donc donné le feu vert pour que ce roman réémerge. Donc, il a réapparu. Et du coup, la Molucie est réapparue avec lui. Et donc, la Molucie, grosso modo, c'est un pays imaginaire sans être un pays imaginaire. Parce qu'en fait, d'une certaine façon, c'est une façon de parler de l'Allemagne. C'est-à-dire que ce roman, il commence en, disons, pendant le moment où Anders va décider de s'exiler d'Allemagne, à partir du moment où l'Allemagne va lui dire en tant que juif, vous êtes étranger à l'Allemagne. Donc il s'en va à l'étranger. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il traite l'Allemagne comme un pays étranger. Il appelle cette Allemagne la Molucie. Et à travers la Molucie, ce dont il parle, c'est de l'Allemagne. Il parle de l'Allemagne. Et effectivement, Perrine expliquait qu'il y avait ce personnage de Bourou qui est une sorte de double Molucien de Hitler. Mais en fait, toute l'histoire de la Molucie, ça passe par des choses très, très, très allemandes. C'est-à-dire que dans cette Molucie, vous avez un prince, une sorte de prince qui s'appelle le prince Gay, qui est un prince qui est un prince assez esthète, assez sophistiqué, qui a un petit côté Louis II de Bavière, qui se fait conseiller, parce que voilà, comme tout prince, il a besoin d'un conseiller, il se fait conseiller par une sorte de Zarathustra qui habite dans les montagnes, qui en fait est un véritable escroc, qui lui donne des conseils un peu bizarres. Et donc voilà, vous avez cette histoire de l'Allemagne, comme ça l'histoire de la Molucie, quelque part c'est l'histoire de l'Allemagne. Mais l'idée c'est de... La Molucie, elle a connu aussi une sorte de première guerre mondiale, de guerre de tranchées à un moment. Donc il y a quelque chose comme ça de l'Allemagne.
Un personnage de Poilu qui apparaît dans la Molucie et qui s'appelle Poilu, mais P-W-A-L-U.
Voilà.
Et qui est un personnage censé être pacifiste, enfin qui milite pour des idées pacifistes, mais qui, au nom de l'unité sacrée, va tout de même s'enrôler dans les armées moluciennes pendant la première guerre de Molucie et qui se retrouve quelques années plus tard enrôlé dans une seconde guerre et qui retrouve sur le champ de bataille sa propre tombe parce qu'il était passé pour mort lors de la première guerre. Et puis on va peut-être pas vous raconter la fin de l'histoire, mais ça se finit mal pour ce pauvre Poilu.
Et donc c'est un roman didactique et vous faites allusion à Alfred Döblin, donc Berlin Alexanderplatz. Et Fassbinder en a fait une série.
Ah oui, oui.
Et donc je vois ce roman adapté en série. Enfin, il y a eu beaucoup de séries sur des dystopies. Et on est là. Il analyse la montée du nazisme. Enfin, je ne veux pas aller trop vite. Et un rapport dialectique entre la vérité et le mensonge. Ouais. Mais cette dimension... Parce que l'aspect didactique, si on le pense à partir de l'Allemagne, est beaucoup plus... vivant, il n'y a qu'à penser au travail de Bertolt Brecht et de Kurt Weill. Et puis Fassbinder, par exemple, c'est un bon exemple de quelqu'un à qui on ne peut pas reprocher d'être dans un esprit de sérieux et puis dans une distance par rapport à ce qu'il fait. Il est totalement dans ce qu'il fait et c'était formidable cette série Berlin-Alexanderplatz, c'est vraiment bien.
On peut toujours rêver d'une catacombe de Molucie, disons, adaptée par Fassbinder. Ça aurait été quelque chose de... Déjà, le roman en lui-même, c'est déjà une sorte d'ovni, mais alors là, adapté par Fassbinder, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais en tout cas...
Donc le modèle, c'est la fable, quoi. C'est Brecht, ouais, Gross, Chaplin, Swift... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'idée dont vous avez parlé d'un roman didactique. En fait, l'idée d'Anders, elle est très proche de celle de Döblin. Il s'agit de se servir du roman pour comprendre le réel. L'idée, c'est que la fable est un instrument qui va permettre de mettre à distance le réel pour mieux le déchiffrer, pour mieux déchiffrer la réalité. En fait, Anders, il se qualifie lui-même de fabuliste réaliste. Donc, l'idée, ce n'est pas de décrire la réalité, mais bien de la mettre en fiction pour devenir une sorte de savant. Le romancier est compris, à la manière de Döblin, comme un savant. Alors, peut-être qu'on peut vous lire un extrait de Döblin, d'un texte de Döblin qui est extrait du roman historique Et nous, dans L'art n'est pas libre. Donc, dans cet extrait, Döblin dit « À partir du moment où le roman conquiert la fonction nouvelle de révélation et représentation spécifique de la réalité, l'auteur devient une espèce particulière de savant. Il est un alliage particulier de psychologue, philosophe, observateur de la société. les écrivains et les poètes, encore une fois, sont une espèce particulière de savants. C'est pourquoi ils se tiennent fermement sur la terre. Pour des raisons liées à leur science, ils ont davantage accès à la réalité et accès davantage à davantage de réalité que beaucoup d'autres. Donc il y a vraiment cette idée que c'est par la fiction, par le roman, que qu'une certaine vision du monde, une vision exagérée, une exagération de certains traits du monde vont permettre de révéler certains mécanismes politiques et notamment les mécanismes de la mise en place du fascisme en Allemagne et dans l'Europe. Donc il y a vraiment une conception qui est très en phase avec la poétique de Dublin dans la catacombe de Molussi. Et aussi cette idée de la fable comme un instrument de grossissement des traits de la réalité. Donc déjà, ce qu'il faut dire, en fait, c'est que La Catacombe de Molussi, c'est pas un roman descriptif avec... Enfin, La Catacombe de...
C'est
ça. La Catacombe de Molussi a une trame narrative très particulière, c'est-à-dire qu'elle se déroule sous forme d'un certain nombre de fables. Ce que transmettent Olo et Yigusa, c'est des fables. Donc, Anders compare son roman avec Les Mille et Une Nuits. C'est-à-dire qu'il s'agit de raconter encore et toujours les mille et une fables qui constitue autant d'événements et d'expériences politiques à analyser à travers... voilà.
Oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a deux types dans une cellule, et en fait, a priori, d'un point de vue romanesque, c'était mal parti, quoi. Deux types enfermés dans le noir sur 500 pages et plus, c'est un peu... Ça fait un peu peur. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on sort, à chaque fois qu'il raconte une histoire, on sort à l'extérieur. Et la Molussi, elle apparaît comme ça, à travers toutes les fables, par flash, comme ça.
Et là, on peut parler d'En attendant Godot, puisqu'il a travaillé sur En attendant Godot, on ne l'a pas encore mentionné, mais c'est quand même une pièce de théâtre qui a eu, au niveau du public, un impact énorme, qui a un succès. À partir des années 50, cette pièce de théâtre est montrée en Serbie très très vite, enfin dans des endroits auxquels on ne s'y attendait pas.
On vous promet qu'on y revient tout à l'heure à Beckett et Godot. On vous jure qu'on y revient.
Mais je pense que ça a un rapport. En fait, ce qu'il faut dire surtout, c'est
le fait d'avoir deux personnages enfermés.
Voilà, oui, mais ce qu'il faut dire surtout, c'est qu'En attendant de Godot a été écrit en 52 et La Catacombe de Molussi, c'est les années 30. Donc en fait, La Catacombe de Molussi est antérieure. L'idée, c'est que Anders va, dans les années 50, interpréter En attendant Godot à partir de ses propres personnages que sont Olo et Yegusa. Donc Anders va donner, en fait, va utiliser sa propre poétique de la fable pour donner une interprétation particulière d'En attendant Godot qui se retrouve dans L'obsolescence de l'homme, tome 1. Mais on faudrait revenir un petit peu pour mieux expliquer ce que c'est que la fable chez Anders, parce que en fait il donne son propre art poétique dans
Il faudrait même revenir un peu sur la Molussi, oui. Parce qu'en fait quand on disait tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure de la Molussi là, on disait que ça retraçait l'histoire de l'Allemagne, mais ça retrace l'histoire non seulement de la montée du fascisme, mais aussi l'histoire de la difficile opposition au fascisme, c'est-à-dire que sous le nom de prémiste, il présente les communistes, sous le nom de SPDiste, il présente la SPD, donc il explique un peu toute cette histoire, mais il explique la totalité de l'histoire, et en fait, c'est un roman qui, comme le roman allemand de l'époque, vise la totalité, il essaye de raconter la totalité de l'Allemagne, mais en même temps, c'est ça la fable, ça intervient à ce moment-là, c'est-à-dire que là, l'idée c'est que le titre de votre émission, c'est la vie est un roman, mais en fait là, d'une certaine façon, il ne s'agit pas de restituer de façon réaliste l'histoire de cette Allemagne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On construit une sorte d'équivalent de l'Allemagne qui s'appelle la Molussi. Et à travers cette chose qui est la Molussi, on va essayer d'expliquer ce qui s'est passé en Allemagne. Mais donc, c'est ça, la fable, c'est un détour. La fable, c'est quelque chose qui là, on invente une fable, on invente une série de fables qui constitue l'histoire de la Molussi. Et donc, à partir de ça, on essaye de comprendre l'Allemagne. Et donc la fable, c'est un détour. La fable, c'est comme va le préciser Perrine, là, c'est une sorte d'instrument, une sorte d'appareil qui permet de dire les choses. Mais du coup, qui est intéressant par rapport à, justement au titre de votre émission, La vie est un roman, c'est que c'est non seulement c'est pas un roman réaliste, mais en même temps c'est un roman qui théorise tout ça dans la suite de Dublin, justement en se disant, c'est pour ça que roman didactique ça fait peur en France, parce que les gens ils ont l'impression que la littérature c'est pas didactique, ça doit être quelque chose de lyrique, la restitution d'une expérience personnelle ou des choses comme ça, mais là l'histoire le roman d'Anders c'est ça, on fabrique un équivalent de l'Allemagne qui est la Maulussie, et à partir de là on se comporte comme un savant et on essaye de connaître, de comprendre ce qui s'est passé. Et donc voilà,
en même temps,
que Perrine s'apprête à lire un passage justement qui dit ça.
Oui, en fait, peut-être que Anders est le mieux à même pour expliquer ce qu'il entend par fable, et il le fait, à l'intérieur du roman, dans des passages métapoétiques, on peut dire ça. Donc juste un passage dans lequel il explique très bien que les fables ne sont pas des images, mais sont des appareils. C'est pénible de devoir expliquer des fables et des proverbes, déclara-t-il. Donc, il, c'est Holo. Ce sont des explications. Et d'un meilleur genre que les autres, car ce sont en même temps des avertissements. S'il faut les traduire, c'est la preuve qu'ils sont de mauvaise qualité. Et s'ils sont traduits, ils ont l'air d'être ordinaires et n'ont plus d'effet. Parce que la fable est un microscope, expliqua Holo. Qui modifie tout ce qu'il montre et qui présente de fausses dimensions, dit Yegusa. Pas du tout. Où est-il écrit que notre œil démuni voit les bonnes dimensions des choses? Vois-tu les bactéries à leur juste dimension quand tu les regardes à l'œil nu, à la dimension qui correspond à leur importance? C'est à travers un microscope que tu les vois bien. Yegusa n'avait jamais réfléchi à cela. Tu dirais alors que le microscope ne modifie pas et ne déforme pas la réalité? C'est avant tout l'œil démuni qui modifie et déforme, répondit Holo. Il déforme le danger réel des bactéries et constitue un obstacle dans le combat réel que l'on mène contre elles. L'appareil transforme cette situation. Il rectifie et rend visible et rend visiblement atteignable ce que nous voulons concrètement traiter et combattre. Est-ce encore une fable ? Demanda Yegusa. C'est la définition de la fable, conclut Holo. Car les fables ne sont pas des images, ce sont des appareils.
Donc, en même temps, pour revenir sur cette histoire de didactisme, Anders fait un coup de force que moi je trouve très romanesque. Il prend Mein Kampf au sérieux. Et là, on a quelque chose qui introduit un monde qui, pour moi, est archi-romanesque, c'est-à-dire que c'est une aventure. Au lieu de considérer que Mein Kampf est un tissu de bêtises, comme ont fait pratiquement tous les lettrés européens, et particulièrement les lettrés français, et de ne pas s'en occuper, Anders le lit et le vit et l'analyse et l'exploite, va le développer comme on développerait dans un laboratoire quelque chose qui va proliférer. Et c'est là que la vérité et le mensonge vont intervenir, etc. Dire le vrai, qui dit le vrai, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas se tromper sur cette dimension didactique aussi. Ça fait image, quoi. Par exemple, si la question, c'est une question des images, avoir didactique serait une forme sans image, et puis le roman balzacien ne serait qu'un alignement d'images, c'est faux dans les deux cas. Et il fait image quand même, Anders, dans son analyse. Et les personnages, on l'a pas dit, mais c'est des personnages à clé. Ce sont des gens qui sont dans le réel, les personnages du roman.
Alors c'est compliqué parce que quand on dit qu'il part en croisade contre le réalisme, c'est un peu contre l'idéal du réalisme, ce que Lukács défendrait comme l'idéal du réalisme, mais que bien sûr Balzac c'est plus intelligent que le concept de réalisme que Lukács voudrait construire.
Hein,
ça déborde forcément la littérature, elle déborde forcément ce genre de concept. Mais là ce qu'on voulait dire avec cette histoire de médiation par la fable, c'est-à-dire que d'une certaine façon Anders prône pour les œuvres littéraires, mais pour tous les types d'œuvres, puisque quand il va analyser d'autres types d'œuvres, des œuvres plastiques et autres, et même des œuvres cinématographiques dans d'autres textes, en fait, il va avoir recours au même modèle. C'est-à-dire que pour lui, là, toutes les œuvres sont quelque part des fables. Toutes les œuvres commencent par prendre une distance par rapport au réel, ce qui fait qu'elles prennent une distance par rapport à l'idéal du réalisme. Et qu'est-ce qu'elles font ? Elles déforment le réel, elles l'exagèrent pour mieux en parler. Et donc tout ce qui est, en fait, d'une certaine façon, tout art quelque part a une une dimension de fable pour lui, parce que Toutard met le réel à distance, le déforme pour mieux en parler, et Toutard a ce côté, c'est en ça que c'est didactique. C'est pas didactique, ça veut pas dire qu'on va donner des leçons, didactique ça veut dire juste qu'on crée un dispositif qui va permettre de parler de la réalité d'une certaine façon. Et c'est ça, en fait, hein, non ?
En fait, oui, et ça a un rapport avec, par exemple, ce qu'a pu faire Brecht avec la distanciation. Je pense que la fable, c'est... la manière dont Anders écrit des fables, c'est la manière dont il interprète le procédé de distanciation brechtienne. C'est-à-dire... mettre à distance le réel et à la fois rompre avec cet idéal d'illusion théâtrale ou l'idéal voilà, l'idée c'est qu'il y a vraiment un rapport entre la fable d'Anders et ce processus de distanciation, de mise à distance du réel.
Est-ce que vous voulez parler de son travail sur la vérité mensonge?
Oui, bah central, oui, bien sûr.
C'est central, non?
Oui, parce que du coup, le fait de procéder comme ça, ça ne veut pas dire qu'on regarde plus le réel. Hein, quand on décide justement de substituer à l'Allemagne la Molussie et puis d'exagérer les certains traits de l'Allemagne dans la Molussie et de parler de l'Allemagne à travers la Molussie, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber. Et du coup, c'est qu'on laisse tomber l'Allemagne. Et du coup, c'est ça aussi qui fait la dimension roman à clé de la catacombe de Molussie. C'est que le personnage de dictateur dont parlait Perrine tout à l'heure, qui s'appelle Bourou, c'est une sorte de Hitler, hein, qui est justement là, sous le microscope d'Anders, et que Anders décortique, disons, dans son roman. Il y a le personnage de Heidegger qui apparaît.
Juste pour rester un peu sur Bourou, et l'analyse d'Hitler, ce qu'il faut bien montrer, c'est que l'analyse que fait Anders de la montée au pouvoir de Bourou ou d'Hitler, c'est l'analyse de quelqu'un qui a vécu dans les années 30. Donc c'est vraiment une analyse contemporaine à la montée d'Hitler. Donc ce qu'il voit chez Hitler et chez Bourou, c'est la prise de pouvoir d'un homme de paille, hein, de grands propriétaires ou de dirigeants qui sont des propriétaires du capital,
de patrons industriels.
Et ce qu'il voit, c'est la manière dont cet homme de paille va utiliser les milices armées dont il dispose pour finalement s'accaparer le pouvoir et pour aussi rendre son pouvoir légitime. Donc il y a des fables où Anders décrit très bien comment ce dictateur qui prend le pouvoir par la force va décider finalement de se rendre légitime par la suite en organisant un vote par les urnes, etc. Donc il y a vraiment une description des mécanismes de prise de pouvoir par un dirigeant fasciste. Et oui, donc il y a pas que Bourou qui se retrouve dans ce livre. Il y a la figure d'un intellectuel compromis avec ce régime fasciste. Et ça, c'est la figure de Regédier, anagramme de Heidegger dans le livre. Donc on peut dire qu'il y a en quelque sorte plusieurs figures de Heidegger dans la catacombe de Molussie, parce qu'on en a pas parlé précédemment, mais Anders a suivi les séminaires de Heidegger, et pour Anders, la philosophie de Heidegger a été extrêmement importante. Parce que toute une matrice conceptuelle, toute une matrice de concepts proviennent de la philosophie de Heidegger et vont être réutilisées dans l'œuvre d'Anders et même dans l'œuvre romanesque d'Anders, mais pour être mieux critiquées et critiquées en particulier sur un plan politique. Donc la figure de Regédier, donc de Heidegger dans le livre, elle apparaît comme celle d'un philosophe compromis qui va utiliser sa philosophie de la mort, de l'être pour la mort, pour finalement promouvoir le fait de ne pas résister, à une imminence de la destruction. Et pour Anders, cette philosophie de Heidegger, elle se présente sous la métaphore ou l'image d'un bâtiment C'est une philosophie comme un grand bâtiment avec des portes dérobées. Et ces portes dérobées, elles conduisent pour Anders vers le fascisme et vers une philosophie politique particulièrement discutable. Et ces portes dérobées, c'est quoi ? C'est toute la question de l'enracinement, de la localité, de la philosophie de la terre. Donc en fait, il y a il y a dans la catacombe de Maulussy cette figure de l'intellectuel, qui, sous prétexte de ne pas s'engager, va en réalité laisser place dans sa philosophie elle-même à la possibilité de régime fasciste. C'est-à-dire, à force de ne pas lutter, de refuser de prendre part à la politique, on finit par ouvrir la voie aux pires atrocités politiques. Par cette volonté de ne pas s'engager. Donc finalement, il n'y a pas de neutralité possible pour Anders.
Puis la façon dont il traite Heidegger dans le roman est assez incroyable. Il y a un moment qui est quand même assez rock'n'roll, là où il arrive à faire apparaître le personnage de Heidegger dans un camp. C'est-à-dire qu'il y a un camp dans le livre. C'est écrit entre 33, 36, tout ça. Mais il y a un camp quand même qu'ils appellent le silo, qui est un camp dans lequel sont entassés des esclaves. Et puis comme il y a une crise qui fait qu'on n'achète plus les esclaves, alors il y a un problème parce qu'il va falloir se débarrasser de tous ces esclaves qui arrivent et parce qu'on n'arrive plus à les contenir dans le camp. Et on va les exterminer. On va les emmener en mer. On va les mettre dans des sortes de containers qu'on va lâcher dans l'eau, comme ça. Et donc, voilà, et Heidegger, il apparaît comme ça dans le roman. La première fois qu'on voit apparaître ce personnage de Régélier, c'est là-dedans. Et il explique ce que c'est que la mort aux gens. Il leur dit, vous allez mourir, mais c'est parce qu'on est tous mortels, on est tous des êtres pour la mort. Il a une façon de présenter Heidegger qui est quand même assez étonnante dans ce roman.
C'est ça. Donc en fait, c'est ce qu'on disait avec la question du roman en clé. Il y a des personnages, on reconnaît qui Anders vise à travers ces personnages. Régédier, ça peut être Heidegger, mais le personnage de May, du sophiste qui va conseiller le prince en l'escroquant, c'est aussi une autre figure heideggerienne. Mais finalement, les personnages qu'invente Anders, ils ont leur vie propre et on peut les interpréter de différentes manières. Et on peut les interpréter pour porter un discours critique sur, par exemple, le comportement des intellectuels et la question de l'engagement des intellectuels dans les sombres temps du fascisme.
Vous dites qu'il y a Maritain dans les personnages.
Oui, à un moment, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle...
Mais qui est Maritain, pour les auditeurs?
Maritain, c'est une des grandes figures du thomisme des années 30. Disons qu'il y a un personnage dans le roman qui s'appelle Yam Yam et qui, d'une certaine façon, est quelqu'un qui a connu l'exil et qui a des choses en commun avec Anders. Donc on s'est demandé à un moment si Yam Yam c'était pas I am, hein, on s'est demandé si c'était pas un peu l'alter ego, mais en même temps Yam Yam il a toute une carrière de militant syndical et politique derrière qui fait que bon, c'est pas forcément le même personnage, mais bon, voilà, il y a des choses en commun comme ça. Et ce Yam Yam, donc dans son exil, il rencontre des gens qui lui tendent la main, et à chaque fois Anders appelle ça les tentations. Donc et parmi les tentations, il y a un moment où justement il y a des thomistes qui lui tendent la main, hein, puisqu'il est intellectuel allemand et il a été formé par Heidegger qui est quelqu'un qui en réalité vient aussi d'une sorte de thomisme allemand, d'une sorte de néo-scolastique allemande. C'est un peu la même génération que Gilson et tout ça. Et donc voilà, il y a une tentation qui est le moment où Yam Yam, exilé politique maulussien, arrive dans un pays qui est la Glory, qui est la France, hein, dont le symbole est un coq. Ouais. Et donc il y a justement les thomistes qui lui tendent la main en disant « Mais vous voulez pas venir parler chez nous comme ça, on vous accueille et vous pouvez nous raconter des choses. » Et donc, lui, il dit, mais en fait, il y a un truc qui ne va pas, c'est que moi, je ne crois pas en Dieu. Il dit, mais ce n'est pas grave, ça nous intéresse aussi de savoir ce que vous allez nous dire en tant qu'athée et tout ça.
Ouais, l'idée, c'est que aurait dû servir de réfutateur de service à ces thomistes gloriliens ou français. Sauf que pour Yam Yam ou pour Anders, servir de réfutateur de service, c'est constamment réutiliser la langue des thomistes, c'est constamment rester ancré dans le système thomiste ou dans un vocabulaire et dans un système de pensée scolastique. Et pour Anders, en fait, il faut faire table rase de ces concepts thomistes, de ce contexte de réflexion sur Dieu pour entrer dans la politique. Et en fait, même si on le payait pour parler scolastiquement et universitairement.
Parce qu'on lui propose de
on
le
lui
payer,
propose de le payer pour faire ça. Et même si on le payait pour scolastiquement réfuter constamment les concepts thomistes, heideggeriens, etc., pour lui, ce serait déjà perdre son engagement et perdre ce pourquoi il veut faire de la philosophie, à savoir la politique.
Alors là, on approche la fin de l'émission. Et donc, ça a à voir avec ce roman, a à voir avec la vérité et le mensonge dans une ligne Machiavel, Diderot, Arendt et Debord après. Et Debord a été accusé d'avoir lu en cachette Anders, de lui avoir piqué ses concepts. Mais donc, c'est ça, donc l'articulation, c'est le mensonge et la vérité. En fait. Bah, c'est-à-dire le paradoxe qui tient le tout, c'est qu'il faut prendre le mensonge très au sérieux et qu'à un moment, il devient la vérité et que la vérité est très limitée, qu'elle a très peu de moyens, alors que les moyens du mensonge sont illimités et que c'est le pouvoir qui dit ce qui est vrai et ce qui est faux. Et on a Trump, on ne peut pas ne pas y penser, là, puisqu'on vient de vivre un martèlement infini avec cette question de Trump.
Il y a beaucoup de choses dans le roman. Il y a d'abord cette idée que le principe même de la Maulussie ou le principe du nazisme, c'est le mensonge, mais pas n'importe quel mensonge. Le mensonge en tant qu'il s'affirme comme mensonge. C'est le mensonge grossier à l'extrême et le mensonge décomplexé.
C'est Trump.
C'est Trump. Ouais. Et Hitler, en fait.
Et c'est Hitler. En fait, moi, je vais le lire parce que Pierrine ne va pas accepter de le lire, mais on a mis un petit passage de Mein Kampf dans la préface, parce que justement, il y a chez Hitler, dans Mein Kampf, une théorie du mensonge qui justement a été réactivée, sur laquelle les gens ont attiré à nouveau l'attention à l'époque de Trump aux États-Unis. Hein, c'est la théorie qu'en anglais on appelle ça Big Lie. En fait, c'est la théorie du gros mensonge, quoi. Et donc voilà ce que ça dit.
Donc,
ce que je vais vous lire, c'est un peu bizarre de faire ça, mais je vais vous lire un passage d'un monsieur qui s'appelle Hitler. Donc c'est dans Mein Kampf, et il dit donc du plus gros des mensonges, l'on croit toujours une certaine partie. La grande masse du peuple laisse en effet plus facilement corrompre les fibres les plus profondes de son cœur qu'elle ne se lancera volontairement ou consciemment dans le mal. Aussi, dans la simplicité primitive de ses sentiments, sera-t-elle plus facilement victime d'un grand mensonge que d'un petit ? Elle ne commet elle-même en général que de petits mensonges, tandis qu'elle aurait trop honte à en commettre de grands. Elle ne pourra pas concevoir une telle fausseté et ne pourra pas croire même chez d'autres à la possibilité de ces fausses interprétations, d'une impudence inouïe. Même si on l'éclaire, elle doutera, hésitera longtemps et, tout au moins, elle admettra encore, pour vrai, une explication quelconque qui lui aura été proposée. Qu'il reste toujours quelque chose des plus impudents mensonges, c'est en fait l'un des plus grands artistes en tromperie que les associations de trompeurs ne connaissent que trop bien et qu'ils en emploient dès lors bassement. Donc en fait, grosso modo, cette idée, ce que raconte Hitler ici, c'est complètement hallucinant de dire ça, c'est qu'il dit, de toute façon, on est tous des menteurs, et donc il n'y a pas de problème avec ça, et du coup, l'idée c'est juste de mentir plus loin que les autres, et de toute façon, quand on ment plus loin que les autres, bah, finalement, comme ils ont l'habitude de mensonge, puisqu'on vit tous dans une culture du mensonge, ça passe, quoi. Et donc, ce qui est fou, c'est que dans Mein Kampf, on a cette théorie du mensonge. Anders, il écrit sur le nazisme dans les années 30, mais écrire sur le nazisme dans les années 30, c'est pas la même chose qu'écrire sur le nazisme en 45. Et quand on écrit sur le nazisme dans les années 30, il n'y a pas toute cette problématique de la Shoah et autres. Quand on écrit sur le nazisme dans les années 30, on écrit sur une variante de fascisme. Et grosso modo, l'idée, c'est qu'on identifie le nazisme comme une forme de fascisme, et une forme de fascisme assumant de façon totalement décomplexée le mensonge. Et donc, c'est ça aussi la façon dont la question du mensonge apparaît dans le roman. Après, la question du mensonge, ça va être la question de comment on s'oppose au mensonge.
Oui, en fait, la question, du coup, si le mensonge s'affirme comme tel, est complètement décomplexé, si la politique d'Hitler et du fascisme, c'est de dire plus on fait un gros mensonge, plus on ment grossièrement, plus les gens vont finalement adhérer à nos positions, alors que devient la vérité ? Que peut faire la vérité face à ces mensonges décomplexés de leur position de mensonge ? Parce que traditionnellement, un mensonge se voilait lui-même, il essayait de faire semblant d'être vrai, et la vérité s'opposait à ce mensonge en disant « non, c'est moi la vérité ». Là, c'est un mensonge qui dirait à la vérité « on n'a absolument que faire de ce que tu peux dire, on s'affirme comme mensonge et on arrivera à toucher les gens. La vérité, à ce moment-là, elle dit quoi à ce grand mensonge? Elle dit « Oui, mais moi, je suis vrai. » Et le grand mensonge lui dit « Soit, très bien, mais on s'en fiche. » Parce que nous, on a les oreilles, on a les oreilles de ces masses qui nous écoutent et qui nous croient et qui adhèrent. Et alors, à ce moment-là, que fait la vérité? Et c'est la grande question de la catacombe de Molucie, et c'est ce que pose Anders dès les premières lignes de l'exergue du roman. C'est de dire que la vérité, pour être entendue, doit se travestir en mensonge. Et qu'il faut retrouver une certaine forme de politique qui ne cherche plus à se fonder en vérité, qui ne cherche plus à s'appuyer sur les arguments les démonstrations les plus savantes pour être entendue. Mais qu'il faut en quelque sorte apprendre à remaquiller le mensonge pour avoir une force politique et pour remaquiller la vérité, pour qu'elle acquiert cette force politique qui puisse lui permettre de s'opposer à ce big lie ou à ce grand mensonge. Et en fait, c'est là où Anders s'inscrit dans toute une tradition philosophique qui va de Machiavel jusqu'à Diderot et même jusqu'à Arendt et Debord, disant que en fait, la vérité en politique, elle a toujours affaire. Où l'action politique a toujours affaire au mensonge. En fait, un bon politique doit savoir apprendre à user ou à ne pas user de mensonges selon ce qui a le plus d'effet. Elle doit savoir apprendre à vivre dans ce monde du phénomène, dans ce monde de ce qui apparaît et non pas de ce qui est vrai, qui constitue le monde politique.
C'est comme si la substance de la politique, c'était le mensonge. Tout se passe dans le monde du mensonge. Et il faut renoncer à la naïveté de croire que, de dire « moi j'ai la vérité contre le mensonge, ça va marcher ». Ce qu'il faut, c'est se dire que tout ça, c'est juste du théâtre. Et donc, ce qu'il faut, c'est savoir justement exagérer, savoir justement quel rôle jouer là-dedans. Et en fait, c'est ce que va faire Anders plus tard. Parce que quand il va vouloir se lancer dans cette croisade contre la menace nucléaire, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer un rôle. Il va jouer un rôle qui est celui qu'il appelle le rôle du semeur de panique. Et donc, voilà, il va se lancer dans cette affaire en tant que semeur de panique, en théorisant lui-même ce que c'est que l'exagération. Hein, il reprend ça dans le tome 1 de l'obsolescence de l'homme. Et donc, voilà, le voilà parti sur la scène politique en jouant le rôle du semeur de panique dans cette grande comédie humaine de la politique de l'après-guerre et donc voilà et en ayant recours à l'exagération quand c'est nécessaire.
Et donc si on prend l'attitude du Parti républicain dans le délire de Trump sur le fait qu'on lui avait volé les élections, tout ça, à travers Anders, on peut comprendre ce qui se passe, parce qu'en fait, on ne comprend pas ce qui se passe. On se dit, mais enfin, c'est pas vrai, pourquoi ils y croient?
Voilà.
Et c'est massif. Le Parti républicain, c'est pas l'employé du Lidl du coin. C'est quelque chose d'énorme. Et c'est cette énormité qui nous empêche de penser, qui nous écrase complètement. Voilà. Et là, si vous vouliez donner envie à quelqu'un qui ne connaît pas Anders, et si vous vouliez lui donner envie de lire ce roman, qu'est-ce que vous lui diriez pour conclure, plus ou moins?
Eh ben, moi, je dirais qu'il ne faut pas écouter les gens qui disent que la littérature didactique, ça, c'est a priori ennuyeux. Parce que, en fait, ce n'est pas du tout ennuyeux. Et il y a même des moments où enfin, nous, on est peut-être un peu bizarres, mais nous, ça nous fait vraiment rire, quoi. On trouve que ce roman, c'est quelque chose de très profond. Et très profond politiquement, justement, pour toutes ces raisons qu'on vient de dire. Et en même temps, c'est quelque chose de très drôle, parce que Anders, tout le monde veut le présenter comme un type absolument sinistre, pessimiste, dépressif, et je sais pas trop quoi. Mais honnêtement, c'est un type qui est drôle, quoi.
Bon, il faut rappeler que c'est de l'humour noir, mais oui, je pense que c'est, il y a vraiment des passages de comédie dans le livre. Et je pense qu'Anders dit lui-même, je sais plus dans quel endroit, mais il dit lui-même que les auteurs de comédie ont beaucoup à nous apprendre. Mmh. Et je pense que c'est ce qu'essaye de faire passer Anders à travers ses fables, à savoir que la vérité, elle se dit de plusieurs manières, et elle se dit à travers des mises à distance, elle se dit à travers des fables, elle se dit à travers des inversions, à travers des jeux de métaphores, et que la vérité doit apprendre à se dire sous ses multiples formes.
Moi, je pense qu'il s'est lui-même pas mal amusé avec certaines de ses fables. Ouais. Et ça se sent, il y a un plaisir du texte.
En tout cas, si le modèle, passe, c'est Les Mille et Une Nuits, on ne s'ennuie pas quand on lit Les Mille et Une Nuits.
En tout cas, nous, on ne s'est pas ennuyé à le traduire.
Et j'ai vu passer un titre hier, puisque vous êtes prof, sur la pédagogie, et que j'ai trouvé très bien. C'est sur l'aspect nocif de l'invention à tout prix dans la pédagogie. Et si on prend ce que c'est l'éducation nationale en France, par exemple, il y a une prime à l'invention. Chaque ministre qui revient, chaque prise de pouvoir va mettre en avant un certain type d'invention, alors que ça n'a rien à voir avec la transmission du savoir, avec le donner à acquérir aux autres une capacité à maîtriser un certain nombre de choses. Il y a pas, c'est nocif, ça peut être nocif en fait. Je vois bien comment c'est nocif l'idée d'être performant, par exemple. C'est ça, donc l'idée du progrès à voir avec la performance, avec la fabrication, avec des formations professionnalisantes, enfin avec des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec le fait d'être à l'aise avec un corpus, avec un savoir, avec acquérir une certaine familiarité.
Après, sur l'innovation, on ne va pas instruire le procès de l'innovation, c'est plutôt bien. L'innovation, créer des choses nouvelles, c'est plutôt bien, ça. Mais par contre, ce qui est un peu débile, d'une certaine façon, pour le dire crûment, c'est l'innovation pour l'innovation. Mais après, sinon, innover, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de
problématique. On est face à l'atome, donc on voit bien...
Mais après, c'est vrai que si on se penche un peu sur l'histoire de l'éducation nationale depuis un petit moment, la question, c'est aussi de savoir comment repasser sans arrêt des sortes de couches de peinture verte sur le gris de l'éducation nationale, comme ça, et de toujours avoir l'air de renouveler le système et tout ça. Mais bon, ça, moi, je trouve que c'est un peu de la com, du marketing. C'est un peu la façon dont les ministres qui arrivent veulent vendre leur temps le temps de leur mandat en disant, moi, je vais vous refaire tout ça. Enfin, on va pas revenir sur la triste histoire de ces... Enfin, les tristes propos qu'ont pu tenir divers ministres de l'éducation là-dessus, quoi. À commencer par Claude Allègre et de ses ministres mémoires.
Il était bien, oui. Donc, un livre de 560 pages paru à l'échappée, hein, La catacombe de Molussi, Günther Anders. J'espère qu'il sera dans votre librairie la plus proche et que vous pourrez le voir. Je pense qu'on approche la fin de l'émission.
Le voir, et non seulement le voir, mais le lire aussi.
Et le lire, bien sûr.
De la première à la dernière page.
Oui, parce qu'on ramassera les...
Sans oublier les apocryphes, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on a traduit la deuxième édition augmentée du livre, donc augmentée par environ 200 pages d'apocryphes molussiens. Alors Anders a lui-même une vision assez humoristique de ses propres textes. Les apocryphes, c'est les textes non canoniques de la Bible. Donc en fait, il a écrit... ses propres textes non canoniques de sa Bible, qu'est la Molussie. Et dans ses apocryphes, il y a des dossiers, enfin un faux dossier de presse qu'invente Anders, et il y a des fables qui viennent compléter et éclairer les fables du corps même de la Molussie. Voilà.
Et vous disiez que vous alliez encore publier des inédits d'Anders ?
Ah, il y en a beaucoup.
Ben là, maintenant, nous, on est embarqué dans une autre traduction qui est maintenant de traduire tous les écrits anthropologiques d'Anders. Et donc, ça, c'est un projet qui va nous prendre un petit peu de temps encore. Mais ça correspond à la première période académique d'Anders, quand il est dans Husserl, et comment il se sort d'Husserl en allant vers Heidegger, et comment il se sort de Heidegger pour aller dans l'anthropologie
Plessner, philosophique. Et comment il se sort de l'anthropologie philosophique pour aller vers une sorte de phénoménologie, c'est-à-dire une méthode phénoménologique appliquée à des phénomènes historiques qu'il appellera plus tard une philosophie de l'occasion. Voilà,
et ça, donc, c'est de la pure philo. Hein. Ça aura pas le côté super fun et super rigolo de la catacombe de Molussi. Voilà. Ça sera un peu plus austère. Mais...
Donc, en fait, si vous voulez lire un Günther Anders assez fun et à rigolo, il faut lire la catacombe de Molussi.
Et parce que ça annonce Orwell aussi, donc on n'a pas du tout mentionné Orwell. Mais l'idée, c'est que ça serait... ce que Orwell va faire avec 1984 est dans cette ligne...
Mais il y a vraiment l'idée d'une novlangue et d'une mise au pas des populations qui est mise au jour. Enfin, il y a ce mécanisme de la mise au pas des populations et des opinions dans la catacombe de Molussi. C'est-à-dire qu'il y a des fables qui sont très intéressantes sur la question de l'opinion. La question de la liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression ? Est-ce qu'elle suffit pour dire qu'un régime est démocratique ? Parce qu'actuellement, nous avons la liberté d'expression. Pourtant, pour Anders, ça ne suffit pas à affirmer la, que à affirmer la enfin la présence de la démocratie. Parce que pour que la liberté d'expression soit effective, il faut qu'on ait également la liberté de se forger ses propres opinions. Or, dans les conditions de culture de masse actuelle et de consommation de masse et d'acculturation par la télévision, par exemple, les régimes politiques sont capables de former nos opinions, de former les opinions des citoyens. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'exprimer une opinion qui a été toute forgée dès le départ par un certain nombre d'organismes journalistiques? Et qu'est-ce que ça veut dire finalement, est-ce qu'on peut encore dire qu'on a une véritable liberté d'opinion et d'expression alors que nos opinions sont déjà formées et déjà pré-ingurgitées et pré-mâchées par les médias?
Et donc ça, c'est le côté Orwell.
Ouais, et puis le côté Orwell, c'est aussi le côté dystopie de l'affaire.
Ouais, hein.
C'est-à-dire que la Molucie, il ne faut pas croire que parce qu'il y a des noms de pays imaginaires, tout d'un coup, on va faire une utopie, quoi. Là, ce qui est décrit à travers le pays qui s'appelle la Molucie, ben c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne des années 30, ça a plus une tête de dystopie qu'autre chose, quoi.
Et le rapport avec Kafka, l'influence de Kafka, comment vous la voyez ?
Kafka, c'est énorme. C'est-à-dire que Kafka, avant d'écrire La Catacombe de Molucie, en exil, il a eu le temps d'écrire un petit roman qui s'appelle Léarci. Léarci, c'est Israël à l'envers. Et donc, il est traduit en français dans le recueil qui s'intitule Ma judéité, qui a été publié chez Fario en 2019. Et en fait, ce roman, Léarci, il raconte l'histoire d'un personnage qui est en fait le cas de Kafka. Et ce que réécrit, ce que fait Anders dans Léarci, c'est qu'il réécrit le château de Kafka. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui s'appelle Léarci qui arrive justement dans une auberge, mais ça se passe autrement que chez Kafka. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il devient le patron de l'auberge, quoi. Et que, bon, après, il lui arrive tout plein d'histoires complètement étonnante, mais ça raconte beaucoup de choses, disons, sur qu'est-ce que c'est qu'être juif en Allemagne. Anders a toujours eu une sorte de fascination et de problème avec Kafka. Il a toujours trouvé que Kafka avait un rapport à la politique qui sentait un peu trop la soumission. Mmh. Alors la soumission, c'est pas du tout le fond de commerce de la maison Anders en matière de politique, c'est plutôt une sorte de rage et de rébellion permanente. Et donc du coup, voilà, son rapport à Kafka, c'est à la fois la fascination, parce que c'est de fait, objectivement, c'est fascinant, Kafka, et en même temps, il y a une réserve politique par rapport à Kafka. Et donc il a consacré un livre entier qui s'appelle, ça s'intitule Kafka
Pro und Contra,
pour ou contre.
Et c'est pas traduit alors.
Si, c'est traduit. C'est un des premiers livres qui ont été traduits en France de Anders. C'est publié aux éditions Circé, mais je sais plus en quelle année. Ça doit dater des années 80.
Ah oui, quand même.
Voilà. Et justement, on disait avant que La Catacombe de Molucie, c'était le roman dans lequel Anders examine ce qu'est la montée du fascisme des années 30 pendant les années 30. En fait, à la fin de Ma judéité, ont été publiés des poèmes d'exil qui datent des années 40, 45, 48. Et c'est dans ces poèmes qu'Anders essaye d'élaborer une compréhension fragile de ce qu'a été la Shoah. Parce qu'en fait, comme il a été exilé aux États-Unis, il n'a pu apprendre que petit à petit, à travers certains récits, certains journaux, l'extermination des Juifs et l'extermination de certains de ses amis, de sa famille, et de ce qui est arrivé à Benjamin, par exemple. Mmh. Et donc, c'est vraiment... plus que dans la Molucie, c'est vraiment dans les poèmes que Anders essaye de comprendre, d'élaborer littérairement ce qu'a été son expérience de la Shoah.
Oui, parce qu'en fait, la Molucie, on parle du nazisme dans les années 30, mais après, le temps passant, Anders, c'est un poète aussi, et c'est ces poèmes qui, d'une certaine façon, vont lui servir à comprendre ce qui s'est passé. Alors, c'est bizarre que ça se fasse sous forme poétique, mais c'est parce qu'il a ces poèmes, c'est des choses qu'il conçoit comme des exercices d'imagination. Et du coup, à travers ces poèmes, il va essayer de comprendre ce que c'est que le vécu des Juifs dans l'immigration. Il va essayer de comprendre ce que c'est que le vécu des gens qui sont confrontés à la Shoah par balle, ce que c'est que le vécu des gens qui sont confrontés au camp d'extermination. Et même, il parle des gens qui se révoltent dans les camps et tout. Il parle de tout ça, mais dans des poèmes. Parce que de toute façon, ça peut pas se dire autrement que dans des flashs.
Comment dire l'indicible.
Voilà, c'est ça.
Et c'est par une écriture la plus courte et la plus resserrée possible qu'il va essayer de le faire.
Bon, bah écoutez, merci d'être venu. Donc c'était Günther Anders, la catacombe de Molussier, à l'échappée, une heure sur le sujet. Allez voir comment c'est. Merci, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.